T'as qu'à leur dire Django veut le même cachet que Clark Gable.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits jusqu'à la 13e génération de mon race.
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Stéphane. Et à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais cependant qui ont un point commun. Aujourd'hui, on réunit de sauvages apaches. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par ceux que la presse de l'époque, de la belle époque même, a surnommé les Apaches. Des gangs qui ont fait trembler la capitale. Des Apaches qu'on pourra découvrir dans un film qui sort demain sur les écrans, dont on va parler avec son scénariste et réalisateur et la comédienne Alice Izaz dans un instant. Puis, on quitte Paris pour le Far West avec celui qui fut le chef de tribu Apache, resté aujourd'hui l'un des plus célèbres, Geronimo. Et après les morts le vivant, c'est vous Jean-Luc qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, Apache, oui, mais pas Apache.
Oui, il y a une petite subtilité quand même, hein. Vous me connaissez, je suis subtil. Le Apache dont je vais dresser le portrait est Apache A-P-A-S-H, le héros de la série Validée diffusée sur Canal+, et validée par l'univers du rap, joué par le rappeur, désormais aussi comédien, donc Attic. Apache, Attic, je vous raconterai tout ça.
Alors, eux aussi sont validés par la direction d'Europe 1, en tout cas. Et après 556 émissions, bah, ça paraissait normal comme ça. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Bah, écoutez Stéphane, difficile de penser à Apache sans penser plumes et coups de pistolet. Et bah, je vais donc vous raconter une petite histoire de plumes et de coups de feu qui n'a vraiment rien à voir avec vos Apaches. Je pense que vous n'attendez pas du tout à ça.
Alors lui, forcément, il va remonter aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, peut-être le calumet de la paix, je ne sais pas. Non,
non,
David Castel-Lopez, de quoi nous parlez-vous?
La barre de feu, vous savez, chez les pompiers.
La barre de feu, oui.
La barre de feu.
Là où ils descendent pour aller plus vite.
Ils descendent pour aller beaucoup plus vite.
Oui, bien
sûr. Ça, on sait très bien quand est-ce que ça a commencé.
Oui, il y a dans les lap dance aussi, mais ça sert.
C'est ce que Stéphane appelle le pole dance.
Le pole dance. Et bien voilà, je vous dirai d'où ça vient.
Ils m'ont proposé de descendre là.
J'ai eu très peur.
Et vous n'avez
pas fait.
Vous n'avez pas fait.
C'est très haut.
Ça fait très bien. Après, moi j'aime bien.
Les casernes.
Oui, mais moi j'aime bien voir les pompiers le faire, effectivement.
Ah, bah vous aimez voir les pompiers.
C'est très bizarre comme phrase. J'aime bien voir les pompiers se frotter contre ses comptes-barres.
Les origines, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre. Mais aïeux, quelle époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte très haut dans le temps, il y a 3000 ans. On parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, et d'une invention qu'on doit aux Incas.
Oui. Vous mangez de temps en temps de la nourriture lyophilisée?
Ah, je croyais qu'on mangeait des petits Incas.
Oui, de la purée mousseline, par exemple.
Bah, vous savez que avant que Mousseline invente sa fameuse purée, il y en a d'autres qui y avaient pensé. Il y a plus de 3000 ans.
Oh. Non. Oh. Les Incas ont pensé
de la purée mousseline.
Exactement. Les Incas faisaient de la purée mousseline.
Ils faisaient un petit volcan à l'intérieur pour mettre du jus dedans.
Bien sûr.
D'accord.
Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40. Et puis, les auditeurs l'attendent avec impatience, Jean-Luc. Vous allez être, le temps d'une séquence, l'arbitre impitoyable d'un jeu pitoyable.
Pitoyable, carrément. Non, je vous interdis. Hein. Disons que ce quiz historique a parfois des questions un peu décalées, je vous le concède. Mais l'important, c'est que le démon de la gagne vous habite et que vous fassiez tout pour triompher de Clémentine, qui n'est pas la dernière pour vouloir l'emporter.
Ouais, je ne sais pas si je vais jouer, moi. Je perds beaucoup ces derniers temps.
Oui, mais vous allez vous refaire, vous allez vous refaire.
J'ai l'impression qu'elle est très dépressive.
Oui, le meilleur gagne, en tout cas. Et en attendant, restez bien avec nous. Je vous raconte nos premiers personnages du jour.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
On les appelait aussi les escarpes, les surineurs ou les chourineurs. On les croisait du côté de Bastide, Sébastopol et dans les bals populaires. S'ils sévissaient à Paris, ils ont fait trembler la France entière. Et trois quarts de siècle avant Starmania, les gens changeaient déjà de trottoir quand ils arrivaient en ville. Je vous raconte maintenant les Apaches de Paris. Personne ne se souvient de son véritable nom, mais tout le monde a en tête celui qu'on donnait à Amélie Lee lorsqu'on la sifflait dans les cabarets de Belleville au tournant du siècle passé, Casque d'or. Un surnom que la jeune femme devait à ses cheveux blonds et que Simone Signoret a immortalisé au cinéma devant la caméra de Jacques Becker en 1952. Mais Casque d'or n'a pas attendu le grand écran pour être célèbre. En 1900 déjà, tout Paris la connaît. Casque d'or, c'est la reine de l'Ange Gabriel, un cabaret du Vieux Paris. C'est aussi la muse d'un truand de Charonne, Joseph Plaigneur dit Manda. Mais la belle gigolette le quitte pour un autre chef de bande, un Corse, Dominique Leca. Entre les deux caïds, la guerre est ouverte. Chacun rend coup pour coup. En janvier 1902, Manda et sa bande poignardent Leca dans un fiacre. La presse embraye. Casque d'or, elle, livre sa version de l'affaire en feuilleton grâce à la plume du journaliste Henri Frémont. Certains plongent avec délice dans un récit romanesque en diable. D'autres, parfois les mêmes, se hérissent. Dans le petit journal, on peut lire
« Ce sont là des mœurs d'apaches du Far West. Pendant une demi-heure, en plein Paris, en plein après-midi, deux bandes rivales se sont battues pour une fille des fortifs, une blonde coiffée à la chien. »
Dans le matin, on ajoute
« Nous avons l'avantage de posséder à Paris une tribu d'apaches dont les hauteurs de Ménilmontant sont les montagnes rocheuses. Ce sont des jeunes hommes pâles qui vous tuent leur homme comme les plus authentiques sauvages, à ceci près que leurs victimes ne sont pas des envahisseurs, mais leurs concitoyens français. »
Apache. Le mot est lancé et sa note exotique et sauvage fait un tabac. Petit à petit, article après article, reportage après reportage, le tableau se précise, servi par la puissance immense d'une presse qui n'a jamais vendu autant de journaux qu'à la Belle Époque. Portrait physique d'abord. L'apache, c'est d'abord un style. Les chaussures vernies, le foulard rouge ou jaune au ras du cou, une ceinture de flanelle autour des reins, une casquette qu'on porte bas, les cheveux ras sur la nuque et lustrés en un croche-cœur sur le front. La touche finale, c'est sous la taille qu'on la trouve avec les premières pattes d'ef signées du couturier Bénard, un nom qui devient vite synonyme de pantalon en argot. Il y a quelque chose du dandy chez le jeune apache et chaque bande a son style. Des loups de la butte aux cravates vertes en passant par les gars de Charonne ou par ceux de Bastille ou des fortifs. La presse s'étouffe, évidemment. C'est une élégance malsaine que cette élégance de la canaille, dont l'immoralité se lie aussi dans les tatouages. Mort aux vaches, marche ou crève, ou vive l'anarchie. Et puis évidemment, il y a cet outil qui fait frémir le surin, le ya, le schlass, la sacagne ou le stache, bref, le poignard. Cette lame que tout bon apache meurt d'envie de planter dans un gardien de la paix, ou plutôt d'un cogne. Parce que c'est aussi ça, vivre en apache. Manier la langue verte, l'argot des faubourgs, le louchébem, le verlan ou le javanais. Portrait moral ensuite. Très vite, sous la plume des reporters, l'apache devient davantage qu'un marginal, un criminel né. L'apache, c'est le mauvais garçon des temps modernes, la mauvaise herbe qui a poussé dans la haine de l'ordre bourgeois, le rebelle qui refuse l'école, le patron, l'usine, le service militaire, l'ordre et la loi. C'est l'anarchiste par excellence, jeune, immature et désœuvré, crapuleux, paillard et débauché. Sa famille, c'est la foule qui se presse dans les cabarets, les guinguettes et les lupanards. Sa compagne, une catin des remparts, que chacun peut s'offrir pour quelques sous, des sous qu'elle rendra à son homme. Son terrain de jeu, c'est la rue. Ses bas-fonds qu'il ne quitte que pour s'effondrer sur le mauvais matelas d'un bouche crasseux, assommé par l'alcool. L'apache, c'est l'ennemi du bon père de famille. À partir de 1905, l'inquiétude vire à la panique. Une panique que la presse attise à grand renfort de gros titres et de couvertures sanglantes. Dans le Petit Journal, le Gaulois ou le Figaro, on lit chaque matin le compte-rendu, souvent romancé, des agressions de la nuit. Avec une conclusion claire.
Il faut épurer Paris. Comment ?
S'interroge le matin en 1906. Pour nettoyer la ville, chacun rivalise d'inventivité. Au ministère de l'Intérieur, Georges Clémenceau, qui se désigne lui-même comme le premier flic de France, crée les brigades du Tigre. Mais rien ne satisfait les plus inquiets. En 1910, le docteur Lejeune propose de rétablir un vieux châtiment expédié aux oubliettes par la Révolution, le fouet. Dans un ouvrage baptisé « Faut-il fouetter les apaches ?», le bon docteur répond par une défense en bonne et due forme de la flagellation publique.
Dévêtu, l'apache expose son anatomie de malingre et de dégénéré. Il se montre tel qu'il est, un être inférieur que seule notre excessive humanité tolère au sein des grandes villes. le flagellé redevient un esclave, un vaincu, et rien n'est mieux que d'imprimer cette sensation sur sa peau.
Dans Le Matin, on renchérit.
Le seul moyen de nous en désencombrer est de les rosser copieusement et de les renvoyer assagis à l'établi.
D'autres vont plus loin. Alors que le bruit court que la République s'apprête à supprimer la guillotine, la page arrive à point nommé pour chauffer l'opinion publique à blanc. Certains criminels répondent avec une ironie noire en se tatouant par exemple autour du cou la phrase suivante « à découper suivant le pointillé ». Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des villes, la délinquance urbaine a toujours existé et des œuvres en témoignaient déjà au XIXe siècle comme « Les mystères de Paris » de Gensu ou « L'Assommoire » d'Émile Zola. Pourquoi la figure de la page connaît-elle un tel succès au tournant du XXe siècle? Sans doute parce que la belle époque ne l'est pas pour tout le monde. La France des années 1900 est une France coupée en deux, l'une aisée, l'autre misérable. Celle-là, c'est celle des laissés pour compte, qui peinent pour gagner 3 sous, relégués dans ces faubourgs qu'on n'appelait pas encore les banlieues. C'est la France des marges, celle où la colère ne cesse jamais tout à fait de gronder, et les apaches en sont les enfants, des enfants pas si nombreux d'ailleurs. À lire la presse, Paris n'est plus qu'un coupe-gorge où chaque porte cochère abrite un égorgeur. La réalité statistique est plus nuancée. Oui, la délinquance progresse au tout début du XXe siècle avant de stagner après 1905. Mais on peut tout ranger derrière la figure de la page, du viol au graffiti, de la bagarre d'auberge à l'assassinat, du crime familial à l'arnaque au bonneteau. La page symbolise le crime sous toutes ses formes, et il incarne surtout une jeunesse perdue que certains contemplent avec horreur et que d'autres lorgnent avec une sorte de fascination, la même qu'on a pour les pirates ou les bandits de grand chemin. Si on prête beaucoup aux apaches, les archives montrent, elles, une autre réalité. La plupart des jeunes gens qui finissent au bagne, en maison de redressement ou en bataillon disciplinaire, viennent de petites bandes de quartiers sans envergure. Ces camaraderies délinquantes sont loin de former un milieu ou une mafia à part entière, organisée et implacable. La mauvaise herbe des années 1900 n'aura de toute façon guère le temps de grandir, puisque bien des apaches ne rentreront jamais des tranchées, fauchées comme tant d'autres par la Grande Guerre. Bien plus tard, quand une nouvelle jeunesse délinquante apparaîtra, c'est sous d'autres noms qu'elle fera à son tour la une d'une presse effrayée par les héritiers lointains des apaches de la belle époque, les loubards ou les blousons noirs. Mais ça, c'est une autre histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler des apaches de Paris, avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un réalisateur et son actrice qui leur redonne vie sur grand écran. Bonjour Romain Quirot. Bonjour Alice Izaz.
Bonjour.
Bonjour.
Romain Quirot, vous avez écrit et réalisé Apache qui sort demain au cinéma et qui met en scène une bande d'apaches dans le Montmartre de la Belle Époque. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à évoquer cette époque et surtout ces apaches qui ont terrorisé le Paris de la Belle Époque pour votre deuxième long métrage?
Bah, parce qu'il y avait, en fait, il y avait un univers, il y avait un genre de film qu'on aborde peu en France. On nous dit qu'on n'a pas trop le droit, il y a un peu une peur en fait. C'est le genre de film qu'on aborde assez peu finalement en France, le film de gangster. Et en fait, avec les Apaches, il y avait un univers à créer, il y avait un nouveau monde, un truc fascinant pour qui a aimé tous les films de Scorsese, de Tarantino, mais aussi, par exemple, Orange Mécanique, ils étaient hyper stylés, ils avaient un univers très propre à eux. Et il y avait une tragédie derrière tout ça qui faisait écho à ce que j'avais envie de mettre en scène.
Mais Romain, sans faire un film inspiré de faits réels, vous avez construit une intrigue fictionnelle autour du personnage de Billy au sein de ce cadre historique des Apaches tel que je l'ai raconté. Billy a, elle, forcément un peu du casque d'or dont j'ai parlé au début du récit,
évidemment,
non ?
Évidemment, parce que de toute façon, le casque d'or, à l'imprègne, c'est la figure de proue des Apaches. Ces amours tumultueuses font partie de leur histoire. Et en même temps, moi, j'avais envie de raconter une autre histoire, une histoire en prenant le point de vue d'une femme qui rentre dans un gang. Mais il y a la même fougue, la même rage de vivre et aussi une soif de reconnaissance, de ne pas subir ce monde injuste dans lequel ont vécu beaucoup de gens à cette époque. Donc il y a évidemment une âme, on va dire, de casque d'or dans le personnage de Billy.
Alors Billy, c'est vous, Alice Izaz. Billy, une jeune femme venue venger son frère qui a été tué par les Apaches. Avant de faire ce film, est-ce que vous, Alice, vous connaissiez l'histoire des Apaches de Paris ?
Alors, je dois dire que non, j'ignorais totalement cette... pas l'époque, mais en tout cas le gang des Apaches. J'ai appris tout ça et je me suis renseignée grâce à Romain lorsqu'il m'a proposé ce film. Et je dois dire que j'ai été absolument fascinée par cette jeunesse-là et j'étais ravie de pouvoir interpréter le personnage principal du film Apache. Mmh.
On imagine que ce rôle tranche beaucoup avec ceux que vous avez interprétés jusqu'à présent. C'est Billy, c'est une femme de la rue qui n'a rien à perdre. On écoute vos mots au tout début du film.
Aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été là, enfouie au plus profond de mes entrailles, tapie dans l'ombre, prête à frapper. Il pensait que m'enfermer suffirait à l'anéantir, mais la rage qui brûle en moi est incontrôlable et elle va devenir leur pire cauchemar.
Bon, c'est une femme en colère, hein, on l'a bien compris. Comment est-ce qu'on se prépare pour trouver cette énergie, cette rage justement ?
Bah alors, c'est vrai qu'avec Romain, ce qui était formidable, c'est qu'on a eu le temps de préparer le film, d'en parler, de faire des répétitions. Romain, c'est vraiment un réalisateur qui adore les acteurs, qui les dirige énormément. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir été portée par lui et je lui ai fait une confiance aveugle. Donc je pense que je me suis énormément reposée sur Romain pour cela. Et j'ai été accompagnée de comédiens formidables tels que Nils Schneider, Artus, Rod Parado. Et je pense que je me suis vraiment laissée porter par l'époque. Il y a eu un travail aussi sur les costumes qui était formidable. D'un coup, j'ai été totalement... métamorphosée, on était vraiment brimé, donc ça aide énormément aussi. Et ça a été un vrai travail de troupe, donc j'ai pas travaillé toute seule, à vrai dire, je pense que vraiment on a travaillé tous ensemble.
Vous parliez de moustiler, votre film est très stylé. C'est vrai que c'est incroyable, j'ai retrouvé l'ambiance justement, c'est incroyable parce qu'on est vraiment... Et vous vous êtes documenté, je crois, pendant 2 ans sur ces gangs parisiens pour pouvoir écrire votre film avant de le réaliser. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle découverte vous avez faite?
Bah, en fait, on parle d'un film stylisé parce qu'en fait, eux l'étaient. Et en fait, c'est ça qui m'a plu, moi, quand j'ai étudié, j'ai lu, tout ce que je pouvais voir, tout ce que je pouvais lire. Finalement, il n'y a quand même pas énormément de choses sur les Apaches qui sont quand même assez méconnues. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est la modernité qui se dégageait de ces gangs. Il y a une rage de vivre, une rage d'exister, un refus du système. Et du coup, une poésie, parce qu'en fait, il n'y a aucune chance que ça vive. Il y a quelque chose de crépusculaire dans leur destin. Ils pourront pas survivre à cette époque. L'époque est en plein bouleversement et ils n'auront pas leur place là-dedans.
Mmh. On voit bien, je l'ai raconté, le rôle de la presse dans la création du mythe de la page sauvage et sanguinaire. Et d'après vos recherches, Romain, la presse était malgré elle le meilleur porte-parole des Apaches. Elle en a fait des anti-héros à l'image de ceux de votre film, finalement.
Mais elle a fait ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on attise la peur, donc on peut utiliser la peur d'une certaine façon. Les Apaches, en fait, fondamentalement, ont été presque mystifiés pendant leur existence. Les journaux en parlaient tout le temps, il y avait une espèce... On grandissait de façon exponentielle leurs méfaits.
On leur mettait tout sur le dos
on
aussi,
leur mettait tout sur le dos.
Y compris des crimes familiaux ou autres.
C'était plus facile, en fait. Et du coup, c'est un mélange de la bourgeoisie fascinée par ses méfaits, par ses gangs. Et en même temps, eux, d'ailleurs, c'est un des sujets du film où à un moment le leader de la bande se dit « Et si j'utilisais la presse, en fait, si je faisais passer mon message, ma colère, si j'utilisais la presse pour transmettre ma façon de voir le monde, en fait, qui n'est pas la leur ?»
On leur prête, on leur prête quand même aussi une sorte de mobile idéologique. En fait, ce qui les soude, ce qui les lie, c'est la haine du bourgeois. On le voit, et d'ailleurs, vous le dites aussi, Alice Isaz, dans le film « On écoute ».
Le gang n'obéissait à aucune loi. Mais contrairement à ce que vous pourriez croire, les Apaches avaient des principes. Être toujours en bande, ne jamais devenir vieux, ne jamais travailler. Mais surtout, faire payer tous ces sales bourgeois.
Voilà, donc ils ont quand même cette motivation, on fait payer les bourgeois. Est-ce qu'il y a une vraie revendication politique ou en fait c'est de la provocation? Parce qu'il y a aussi de la violence, mais chez des mouvements de jeunesse un peu subversifs, comme l'ont été aussi les Azou, et Stéphane parlait des blousons noirs, il n'y a pas forcément toujours de la violence. Il peut y avoir une posture, et puis on déteste le bourgeois, mais quoi, on renverse une poubelle. Il y a quelque chose de cet ordre chez eux?
Parce qu'ils sont le fruit d'une époque particulière et d'une époque où l'homme, et en particulier le milieu plus aisé, se mettent en lumière de façon... Il y a des inventions tout le temps. C'est l'invention du cinéma, l'invention des voitures, il y a des expos universelles. Donc il y a d'un côté, l'homme est au sommet de sa puissance et les promesses du siècle à venir sont incroyables. Et les Apaches, ce n'est pas des simples criminels. Il y a quelque chose... En fait, il y a une rage profonde de l'injustice qui est en eux. Alors, c'est pas des Robin des Bois, c'est pas des grands messagers, c'est pas des mecs qui ont... D'ailleurs, c'est une... vraiment, dans le film, il y a ce débat à un moment. Il y en a un qui dit, mais nous, on est là pour soulever quelques buts. Oui. Et l'autre lui dit, non, en fait, non. On est là pour montrer qu'il y a un autre chemin qui est possible. Le contexte social impacte énormément ce qu'ils sont, en fait. Ils sont même... C'est parce qu'il y a ce contexte social que les Apaches, la colère qui les a fait naître, en fait.
C'est un peu ce qui anime Billy aussi, Alice Isaz, dans son il y a son désir de vengeance et puis le fait de sortir aussi de sa condition. Les laisser pour compte dont on parlait, justement.
Oui, et puis Billy aussi, elle se trouve une nouvelle famille lorsqu'elle intègre le gang des Apaches. Donc je pense qu'elle se laisse aspirer aussi par leur mouvement, par leurs convictions, par leurs revendications et... À tel point qu'elle en oublie même à un moment donné son réel désir de vengeance et la raison pour laquelle elle a intégré ce gang. Et en fait, elle l'intègre tellement qu'elle finit par faire exactement comme eux et elle se perd à un moment donné là-dedans. Mais je pense que c'est vraiment la fascination qu'elle peut avoir pour Jésus et pour ses autres membres du gang.
Jésus qui est le membre du gang.
Oui, il faut le dire. Oui, pardon,
Jésus qui est le leader du gang.
Alice Isaz, vous parliez tout à l'heure des costumes qui sont très importants. Et Stéphane a rappelé que les Apaches sont aussi un peu des dandies. C'est vrai que ces générations de rebelles, elles ont des codes vestimentaires. Alors, l'habit, en tout cas, l'habit fait la tenue, fait Apache. Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise là-dedans, ça vous correspond un peu dans ce costume de femme rebelle et...
J'adore les films d'époque, voilà. J'adore jouer dans des films d'époque. Ce que j'ai aimé dans celui-ci, c'est un petit peu le fait qu'il dépoussière le film d'époque et c'est vraiment ce mélange de modernité qui s'intègre vraiment dans cette époque. J'avais des robes... sublime, mais à côté de ça, j'avais des bagues à tous les doigts, très rock'n'roll avec des têtes de mort, des tatouages. La robe, plutôt que de la fermer tout en haut, on l'ouvrait de façon presque indécente pour l'époque, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça m'a aidé, j'ai trouvé ça assez irrévérencieux quelque part, mais ouais, ça m'a plu. J'ai aimé être habillée comme ça, j'ai aimé le côté rock'n'roll de tous ces costumes.
Et puisqu'on parle du rock, pour terminer, Romain Quirot, vous avez choisi une bande originale justement très très rock, ouais. Des couleurs très vives, une esthétique très moderne pour mettre en scène justement cette bande d'Apache. Ils avaient quelque chose de rock pour vous, les Apaches.
Ils avaient quelque chose de rock, ils avaient quelque chose de punk, et ils avaient même quelque chose de libre. Et c'est ce que je voulais en fait, c'était faire un film libre, faire un film qui se permette. Juste, en fait, faire un film qui leur ressemble, qui se permette de mettre du rock, de mettre du hip-hop, en fait, de se laisser porter par une énergie qui était l'énergie des Apaches.
Et qu'on aurait moins senti si vous aviez mis de la guinguette, c'est évident.
Ah, on est d'accord. En tout cas, c'est un très joli film. Merci à tous les deux d'être revenus avec nous sur ces sauvages Apaches qui ont terrorisé Paris, mais qui vous ont inspiré pour votre nouveau film, Romain Quirot, Apache, qui sort demain au cinéma, où l'on retrouve la merveilleuse Alice Isaz dans le rôle de Billy, ainsi que Neil Schneider en chef de bande. Et c'est Jésus, hein, donc, enfin, je veux dire, Jésus...
C'est son nom, donc.
C'est le Jésus des Apaches. Merci beaucoup.
Ils ont le droit de croire, hein, en même temps. Mais en tout cas, merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, saurez-vous reconnaître cet indice musical ?
Donne-moi la main et si tu t'y prends bien, je t'emmène avec moi sur l'Himalaya.
Himalaya,
oui, mais...
Qui chante ?
Le Yeti.
Non, pas loin, on va parler de l'Everest.
L'Everest,
évidemment. Vous avez reconnu le chanteur au moins ?
Et c'est Jérôme.
Mais bien sûr, oui, c'est Jérôme. Jérôme.
Non,
le regretté, c'est Jérôme.
Bon, hein. Oui, pour ça. Non, moi, je suis très mauvaise.
En fait, c'est pas de la connaissance, c'est la voix. Je retiens les voix.
C'est
donc,
ça.
Donc, c'est la voix de c'est Jérôme.
Bravo.
Oui, c'est moi, Jérôme.
Oui,
tu n'as pas changé.
Moi, Jérôme. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui que t'as aimé. Gna, gna,
gna, gna. Oh, bel hommage. Très, très bel hommage à ça.
Okay. Un, je chante faux. Et deux, je ne me souviens pas des paroles.
On a aidé.
Mais avant cet affrontement, eh bien, on va lui laisser la parole, mais pas plus de 8 minutes.
Hein. Okay.
C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, puisqu'on parle Apache, avant de partir retrouver Géronimo, vous nous racontez des petites histoires de plumes, de guerre et de coups de pistolet.
Comment dit-on un coq en anglais, Stéphane?
Coq.
Ben voilà, bravo, très très bon. Et vous, Jean-Luc, comment dit-on une fosse?
Ah ouais, donc
c'était
vraiment
sympa hein, avec ouais, une fosse alors vous
ne
savez
pas.
Ah bon, ça se dit pit. Donc
un cockpit, c'est
cockpit,
ça.
Cockpit, exactement.
Dans l'avion,
donc cockpit, littéralement, c'est la fosse à coq. Et ce terme cockpit apparaît pour la première fois en Angleterre sous le règne d'Elisabeth Ière, figurez-vous. La première trace écrite du terme a été mentionnée dans The Wilderness of Wales de Thomas Churchard en 1587. Wow. Des fois que vous voudriez vous le procurer d'urgence. Et il écrit « Les montagnes se dressent tout en rondeur, semblables à un cockpit ». Et Shakespeare aussi utilise le terme « cockpit », mais lui, c'est pour évoquer la forme ronde, l'exiguïté et le bruit. Il cite ce mot « cockpit » dans la pièce « Henri V ». C'est surtout pour mentionner la difficulté à évoquer la bataille d'Azincourt dans un espace aussi réduit, parce qu'il faut évoquer Azincourt dans une salle de théâtre. Donc voilà ce qu'il écrit, ce « cockpit ». Peut-il contenir les vastes champs de France ? En fait, qu'est-ce que c'était que les cockpits? Les premiers cockpits, c'était de véritables fosses creusées dans le sol, destinées à accueillir des combats de coqs. Parce que les coqs ont une tendance naturelle à se battre pour les faveurs des femelles. C'est ce que nous signale déjà dans son Histoire naturelle le naturaliste Buffon. Les hommes qui tirent parti de tout pour leur amusement, ont bien su mettre en œuvre cette antipathie invincible que la nature a établie entre un coq et un coq. Ils ont cultivé cette haine avec tant d'art que les combats des deux oiseaux de basse-cour sont devenus des spectacles dignes d'intéresser des peuples, même des peuples polis. Et donc en Angleterre, avec le temps, cette fosse à coq est devenue un espace entouré d'une barrière pour empêcher les volatiles de s'échapper naturellement. En France d'ailleurs, on appelait cet espace clos un gallodrome de gallus, puisque le mot gallus désigne le coq sauvage. Et ces combats de coq étaient très, très populaire en Angleterre. On mettait des sièges autour de la fosse et on pariait sur le vainqueur. Ça se pratique toujours dans certains pays. La chose était même tellement populaire qu'à un moment, Cromwell a décidé d'interdire les combats de coqs pour éviter des rassemblements autour des pits, parce que les gens y allaient, puis parlaient politique et contestaient. À Whitehall, qui était l'une de ses nombreuses résidences, Henri VIII avait fait construire des pistes de jeu de quilles, l'ancêtre du bowling, et des cours de jeu de paume, l'ancêtre du tennis, et il fit construire un cockpit, une fosse à coq, ancêtre de quoi, au fait, peut-être bien de notre Assemblée nationale. D'ailleurs, comme un siècle après son règne, ces sites-là, à Whitehall, sont devenus le siège de l'administration royale, trésor et conseil privé, eh bien, on appelait ce lieu, du coup, on s'est mis à l'appeler le cockpit. Dans son journal, Samuel Pépys, 20 février 1659, écrit « Dans la soirée, au Coffee Club, j'ai entendu M. Harrington, monseigneur de Dorset et un autre seigneur, parler d'obtenir une autre place au cockpit. » Donc, quand on parle de ça à l'époque, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir décrocher un job dans une administration royale. Bon, parler de l'administration comme une fosse à coq, c'est pas très respectueux, mais enfin, vous l'admettrez, c'est quand même plutôt réaliste. Et par la suite, l'usage du mot a évolué. Et le terme a commencé à être utilisé à bord des navires de guerre. Et en est venu à désigner l'arrière des ponts inférieurs. Pourquoi ? Parce que pendant les combats navals, le chirurgien et son équipe se mettaient en dessous des ponts, des ponts inférieurs, dans un espace très, très étroit, très malodorant, et où on soignait les blessés. On a appelé ça le cockpit. Et tout naturellement, avec l'apparition de l'avion, et bien, comme les pilotes, eux aussi, devaient se lever dans un habitacle étroit, et bien, on s'est mis à qualifier cet habitacle de cockpit. Voilà. Alors là, j'ai été extrêmement brève. Alors, quand même, un verre de La Fontaine dans les deux coques pour la route. Toute ressemblance avec les personnes présentes dans ce studio ne serait pas fortuite du tout. Deux coques vivaient en paix. Une poule sur 20. Et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis 3. Et c'est de toi que vint cette querelle envenimée.
C'est donc vous la poule.
Bah oui, 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 vous voyez, hein. Voilà, moi je suis comme Modesto, hein. Je ne choisis pas forcément le plus beau rôle.
Bon, enfin, vous ne mettez jamais vos œufs dans le même panier. Merci beaucoup Clémentine. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où on sent comme une tension vraiment dans le studio.
Ah bah c'est normal, hein. Il n'y a plus d'amitié qui tienne, plus de camaraderie, plus de fraternité. Tous les coups sont permis, toutes les audaces et toutes les mauvaises fois sont de mise. Qui va remporter le quiz Burn to be Alive? J'ai bien ma petite idée, mais mon rôle de juge m'interdit d'être partial. Alors, jouons! Stéphane, si je vous dis Tenzin Gyatso.
Ah, enchanté.
Mais vous savez qui c'est?
C'est un Dalai Lama.
Exactement. C'est un homme qu'on connaît tous. C'est le 14e et actuel Dalai Lama. Sachez pour votre culture bouddhiste que le Dalai Lama est tout le coup. Être tout le coup, c'est avoir le droit de frapper une autre personne, mais pour son bien. Hein, seulement. Cette possibilité est utilisable en dernier recours. Le Dalai Lama a déclaré ne l'avoir jamais fait. Vrai ou faux?
Alors, je ne pense pas qu'il ait déclaré parce qu'il a, justement au contraire, il a expliqué dans un livre qu'il avait, plus jeune, il avait tapé quelqu'un pour son bien.
Alors la question c'est plutôt, tout le coup, est-ce que ça veut dire ça ou pas?
Mais non, ça veut dire autre chose. Ah bah, ça veut dire, c'est du lait de yak.
Du lait de yak. Non, mais d'où ça sort ça? Vous dites que c'est faux?
Ben oui, parce que sinon je le saurais, j'ai tout lu sur le Dalai Lama.
Vous avez gagné.
Eh oui, être tout le coup, c'est être la réincarnation d'une personnalité souvent religieuse. Par exemple, le Dalai Lama, alors qu'il était plus jeune, s'est mis à parler. Ouais. Par exemple, le Dalai Lama, alors qu'il était plus jeune.
Là, vous êtes la réincarnation vous-même.
Du Becherel.
Tu vas voir Jocelyne tout à l'heure ce qui va t'arriver. Il s'est mis à parler et bah, tout seul le tibétain de Lhasa, langue de sa précédente incarnation, alors qu'il ne l'avait jamais appris.
Ah oui, c'est fou. Ouais.
C'est fou. Hein.
Ah oui.
Une question pour vous, Clémentine. Est-ce que George Everest, arpenteur des Indes britanniques, géographe, a vécu suffisamment longtemps pour savoir que le mont Everest avait été baptisé ainsi en son honneur?
Non. Non, mais gagnons du temps, j'en ai aucune idée, donc non.
Ah, c'est le hasard, parce que là, c'était tellement affirmatif que je pensais que vous aviez la bonne réponse. Vous dites
non.
Vous dites non, je n'insiste pas.
Vous avez perdu.
Oh, bah alors c'est bien, tant mieux pour lui.
Vous êtes sur une bonne série quand même. Hein. Georges nous a quittés le 1er décembre 1866 à Londres.
Ouais.
Et c'est un an auparavant que la montagne a été baptisée avec son
nom.
Ah
oui, mais c'est pour ça. Vous voyez, j'ai confondu 66 et 67.
Exactement.
Parce que c'était un an près finalement.
Bien sûr. Côté népalais, on appelait la montagne, bah vous le savez, je ne vais pas vous faire l'injure de le dire.
Non.
Non, si, quand même, je vous le fais. Chomolungma. Et côté chinois, on l'appelait Jomolungma.
Ah voilà, c'est toute la différence.
Une question pour Stéphane. C'est durant l'époque Edo que fut peinte la fameuse vague de Hokusai.
Ah, mais ça suffit!
Que fut peinte quoi?
La fameuse vague de Hokusai.
Ah oui, Hokusai, bien sûr.
Est-ce que cette vague est techniquement considérée, d'après vous, comme un tsunami? Trois réponses possibles. Oui, c'est considéré comme un tsunami. Non, ce n'est pas considéré comme un tsunami. Ou, on ne peut pas techniquement le dire.
Non, ce n'est pas un tsunami. C'est pas un tsunami parce que c'est pas un tsunami.
Moi j'aurais répondu oui.
Vous préféreriez que je dise
non, 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 moi je veux votre bonheur.
Vous voulez justement, c'est quoi mon bonheur?
Mon bonheur.
Votre bonheur, c'est de vous planter sur cette question, histoire que j'ai une chance d'égaliser et qu'on fasse la question finale, chose qui s'est pas produite depuis un bail. Hein.
Ouais, depuis.
Oui, mais du coup, on gagne un peu de temps.
Ah, ça c'est le bon côté des choses.
Ouais.
Ah,
donc Stéphane est plutôt pour cette option-là. Gagnons
oui,
du
qu'on
temps.
En finisse, quoi.
C'est ça. C'est... Alors, vous dites quoi? Parce que là, on en perd du temps. Donc, il me faut une réponse.
Non, non, je dirais non.
Vous dites non.
Vous avez encore gagné.
Ah, il est infaillible. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Non, ce n'est pas un tsunami. Un tsunami est toujours une vague portuaire, à savoir une vague qui arrive sur une ville. La vague de Hokusai est une vague scélérate, à savoir soudaine, certes, mais en plein océan. Alors, une question pour Clémentine, quand même, juste pour la beauté de l'art. Restons avec les shintoïstes, car de ce que j'en sais, ils ont l'air gentils. Est-ce que l'on peut dire que le shintoïsme est une religion polythéiste? Oui ou non? Attention, chaque mot compte.
Le shintoïsme n'est pas une religion.
Le shintoïsme, c'est une... Est-ce que ça n'est pas une...
C'est une philosophie, japonaise.
Mais elle est, qui n'a aucun rien à voir avec le bouddhisme, le shintoïsme. Est-ce que ça n'est pas une de ces excroissances?
Voilà, vous avez bien compris.
Et comme le bouddhisme n'est pas une religion.
Un, c'est une religion. Deux, elle est polythéiste.
Non. Parce que si c'est une excroissance du bouddhisme, le bouddhisme n'est pas une religion et est un courant philosophique dont la figure majeure est Bouddha. Ben je réponds
non. Il
n'y a
pas beaucoup de Bouddha.
Vous auriez suivi Clémentine sur ce nom ?
Moi j'aurais dit non, mais pour d'autres raisons.
Pour voilà. D'autres raisons. En tout cas Clémentine, je valide ce nom.
Vous avez
encore perdu.
Oh bah décidément. Hein. Oh j'en ai marre.
Écoutez. En tout cas n'oubliez pas le principe de ce jeu.
La prochaine
oh
fois.
Bah vous avez qu'à m'aider. Ah non mais vraiment quand je pense le nombre de fois où je vous ai trouvé des réponses.
En tout cas, c'est bien une religion. Elle est née de la croyance populaire du culte de la nature. Les dieux peuvent être des ancêtres de la famille, de la région, des anciens dieux, des dieux de la nature. En japonais, on dit « yaoyoro zunokami », ce qui signifie, ouais. Comme vous le savez, « religion aux 8 millions de dieux ».
Oh la vache, dis donc, il faut que je révise mes classiques. Il hein. Oh, y en a 8 millions.
Écoutez, moi je voudrais juste vous remercier d'être venu.
Voilà. Bah, c'est gentil. L'important, c'est de participer. Hein,
Coubertin.
Allez, adios.
Et historiquement, votre continue avec nos sauvages apaches du jour.
Europe 1.
Historiquement, votre.
Le récit. Stéphane Bern.
Il fait partie des légendes de l'histoire américaine. Au temps de la conquête de l'Ouest, la simple mention de son nom suffisait à faire trembler les pionniers, leurs familles et les soldats. Il est l'incarnation par excellence d'une résistance désespérée. Je vous raconte maintenant le chef de la tribu Apache, Geronimo. Nous sommes un soir de juin 1823 au Nouveau-Mexique. Une femme de la tribu Apache, des Bedonkoé, se rend près du ruisseau de Turka Creek. Comme le réclament les ancêtres, elle y creuse un trou sous un arbre pour y enterrer le cordon ombilical de son dernier enfant. Le petit a déjà un nom, Goyakla, celui qui bâille. Ce que sa mère ne sait pas, c'est que le nouveau-né va devenir l'un des leaders amérindiens les plus célèbres du 19e siècle, l'égal d'un Sitting Bull ou d'un Crazy Horse. Reconnu très jeune comme homme médecine, un chaman, Goyakla, ne sera pourtant jamais le chef de sa tribu. Mais son existence reste à jamais attachée à l'épopée du peuple Apache. Cette fédération informelle de 7 grandes tribus qui partagent les mêmes rites et les mêmes coutumes. La bascule intervient à l'été 1851. Celui qui s'appelle encore Goyakla rentre d'une expédition de chasse lorsqu'il découvre un champ de braise et de cendres à la place de son campement qui a été ravagé par une attaque mexicaine. Au milieu du désastre, le jeune Apache relève les corps de sa mère, de son épouse et de ses enfants, massacrés au cours du raid. Le 30 septembre 1859, le jour de la Saint-Jérôme, le jeune chaman tient sa vengeance. Après avoir passé la frontière mexicaine, il lance une charge meurtrière contre un village entier. Au milieu de la fournaise et des coups de feu, une clameur désespérée domine, une supplique au saint du jour, Jérôme, Geronimo en espagnol. Frappé par ce cri, le jeune guerrier ivre de sang et de vengeance s'en empare alors. Pour ses ennemis comme pour son peuple, il sera Geronimo. Au cours des années qui suivent, les États-Unis regardent ailleurs. Plongés dans la guerre civile, les autorités ont d'autres chats à fouetter que de poursuivre Geronimo dont la longue vendetta ne les concerne pas. Leur indifférence sert les intérêts du guerrier, qui fait du Nouveau-Mexique une base arrière, depuis laquelle il lance une longue suite de raids en territoire ennemi avant de se replier de l'autre côté d'une frontière que les Mexicains n'osent évidemment pas franchir. En 1865, la fin de la guerre de sécession change la donne. Une fois la paix revenue, la ruée vers l'ouest recommence et avec elle, la longue procession des convois de mineurs et de pionniers. Face à l'annexion par les Blancs de la terre de leurs ancêtres, les tribus Apaches ne restent pas les bras croisés. Unies sous l'autorité d'un chef célèbre, Cochise, elles se lancent dans une longue guérilla qui se traduit par le harcèlement des convois et par une série d'attaques cruelles contre les fermes ou les campements isolés. Alertées, les autorités américaines ordonnent au général Crook, un vétéran des guerres indiennes, de briser la résistance Apache. Après 10 années de conflit, lorsque Cochise finit par tomber, le général Crook ne tarde pas à constater que le problème n'est pas réglé. Indomptable, Geronimo prend le relais. Réfugié dans les White Mountains du sud de l'Arizona, Le chaman continue de lancer ses guerriers contre les colons blancs pendant une dizaine d'années encore, avant de signer la paix et de rejoindre la réserve de San Carlos. Son renoncement ne dure guère. En 1885, l'homme dont toute la presse américaine réclame la tête s'échappe avec une petite troupe qui se soustrait sans cesse à l'armée américaine. Et on peut dire qu'à Washington, ce petit jeu n'amuse personne. Excédé et bien décidé à déporter les tribus apaches vers des réserves éloignées de leurs anciens territoires, la Maison-Blanche exige la capture de Geronimo et de ses hommes. Sceptique, le général Crook démissionne pour le plus grand bonheur de son successeur, le général Nelson Miles, un carriériste bien décidé à se faire un nom en brisant la résistance apache une bonne fois pour toutes. Le général s'en donne les moyens en lançant toutes ses forces. Ce ne sont pas moins de 5000 hommes qui sont réquisitionnés pour exterminer Geronimo et quelques centaines de guerriers. Pour traquer les renégats, Miles fait installer des dizaines de miroirs sur 600 km de frontière mexicaine afin que chaque mouvement des guerriers apaches soit aussitôt signalé par des messages lumineux. Pendant des mois, Geronimo et ses hommes parviennent pourtant à se jouer du dispositif. La chance y est sans doute pour quelque chose, mais ce sont avant tout les qualités de Geronimo qui leur permettent de passer entre les gouttes. Son excellente connaissance du terrain, sa mobilité, sa capacité à frapper par surprise avant de disparaître en un clin d'œil, son expérience de la guérilla et de la survie font des merveilles comme le respect qu'il inspire à son peuple, convaincu que son chaman détient des pouvoirs hors du commun. Une légende surtout se répand. Piégé par l'armée au sommet d'un canyon, Geronimo aurait sauté dans le vide avec son cheval en criant son propre nom avant de réapparaître comme une fleur sur la crête d'en face. C'est à cette chute mythique que les parachutistes doivent une vieille coutume, celle qui veut qu'on crie parfois « Geronimo !» avant de sauter d'un avion. Bien sûr, Geronimo joue de cette réputation de sorcier. S'il est un excellent tacticien, un stratège de premier ordre, le meneur apache est avant tout un homme qui a le don d'entrer dans la tête de ses ennemis en attisant les contes et les rumeurs qui circulent à son sujet. C'est une guerre psychologique et elle fonctionne. Mais l'acharnement du général Miles finit par payer. Épuisé, fatigué de se battre, Geronimo finit par se rendre le 4 septembre 1886. Chacun découvre alors que la redoutable troupe rebelle qui fait frémir l'armée américaine depuis des mois se résume alors à 16 guerriers, 12 femmes et 6 enfants. L'automne suivant, Geronimo et les siens sont déportés vers la Floride, où on les parque dans quelques vilaines baraques à Fort Marion. Surveillé comme du lait sur le feu, le guerrier déchu reste pourtant une légende. Et une légende qu'on s'arrache. Pour échapper à la misère et pour soulager les siens, le vieux chaman accepte alors de jouer à un drôle de jeu, amer et sinistre. De 1898 à 1905, on promène Geronimo de ville en ville comme un trophée, un phénomène de foire, une relique qu'on montre aux enfants pour leur faire peur. Accueilli par le président Theodore Roosevelt en personne à Washington en 1901, Geronimo participe à une étrange parade, l'Amérique acclamant alors le chef d'un peuple qu'elle a détruit. Mais Geronimo reste un prisonnier. Par vengeance ou par peur, l'Amérique triomphante lui refuse la grâce de rentrer chez lui en Arizona pour y finir sa vie. C'est à Fort Sill, dans l'Oklahoma, que le vieux chaman finit par s'éteindre en 1909, à l'âge de 79 ans, au lendemain d'une nuit glaciale qu'il a passée dans un fossé après une mauvaise chute de cheval. Sur son lit de mort, Geronimo aura le temps d'adresser un dernier message à son peuple. Je n'aurais jamais dû me rendre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Geronimo, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne qui le connaît bien. Bonjour, Joëlle Rostowski.
Bonjour.
Joëlle Rostowski, vous êtes ethno-historienne et spécialiste des cultures indiennes de l'Ouest américain. Geronimo, c'est un nom légendaire. J'ai raconté son long combat pour résister face aux Américains. C'est justement cette pugnacité et cette combativité qui l'ont fait entrer dans la légende.
Tout à fait, c'est le dernier à avoir rendu les armes. Et comme vous le disiez, il y a d'autres chefs très connus, bon, ne serait-ce que Cochise, qui est aussi un Apache. Pourtant, finalement, le plus connu de tous, c'est sans doute Geronimo.
Jean-Luc ?
Géronimo appartient à la nation des Apaches. Concrètement, qu'est-ce qui les distingue des autres tribus indiennes ?
C'est-à-dire qu'en fait, les Apaches viennent du nord, comme les Navajos. Ils sont descendus de ce qui est actuellement le Canada, donc du Grand Nord, vers les plaines. Et là, ils ont été repoussés vers les plaines du sud par les Comanches. Et donc, ils ont vraiment vécu à ce qu'on... Vous connaissez peut-être le Rio Grande, à la charnière de ce qui est actuellement le Mexique et les États-Unis, en nomadisant librement entre les plaines du sud et puis ce qu'on appelle aujourd'hui le nord du Mexique. Et donc, ce sont des populations athapascanes qui n'ont pas la même langue que d'autres populations de la région. Et ce sont des nomades, et bien sûr, il y a un peu les conflits entre les nomades et les sédentaires. D'abord, la région a été colonisée par l'Empire espagnol. Ensuite, 1821, c'est l'indépendance du Mexique. Et donc, ils se trouvent, en fait, sous la coupe des Mexicains. Il y a des villages anglophones un peu partout dans la région. Et on les repousse vers les montagnes. Et donc, eux sont un petit peu indignés de ce qui leur arrive parce que on bloque leur espace de nomadisation. Et là, ils lancent des raids contre les villages sédentaires. Il y a des expéditions de rapines, ils volent des chevaux, parfois ils volent des provisions. Mais ce n'est pas la guerre totale, ce n'est pas la guerre permanente. Ce sont des conflits sporadiques. Et le jour où va se produire ce terrible meurtre de toute la famille, l'assassinat de toute la famille de Géronimo, en fait, c'est un jour plutôt paisible. Il le raconte dans son autobiographie. Eh bien, il va tout simplement en expédition de chasse et puis pour acquérir certains biens dans un village. Et c'est quand il revient qu'effectivement, il voit que son campement était totalement détruit.
Géronimo est chaman. Il est aussi un guérisseur, c'est-à-dire qu'il a le don de soigner. Il a aussi des visions. C'est une sorte de prophète. Ce sont des dons qui lui permettent de résister aussi longtemps.
C'est-à-dire qu'après ce drame, cette tragédie dans sa famille, il s'isole en fait. Et donc, selon la tradition, l'isolement, la méditation peut conduire à la vision et à un sens de la mission. Et c'est là qu'il acquiert la profonde conviction qu'il doit sauver son peuple. Et donc, on raconte qu'il aurait entendu des voix lui disant « Tu ne seras jamais tué par une balle, tu ne mourras jamais au combat ». Ce qui lui confère une hardiesse supplémentaire parce qu'il sait qu'il ne mourra jamais pendant un conflit armé.
La bascule de la renommée de Géronimo s'opère d'une façon brutale et funeste, comme on l'a rappelé, puisqu'il perd sa famille lors d'un raid organisé par les Mexicains. Et je l'ai rappelé et vous l'avez souligné. Dans le dossier spécial du hors-série d'Historia consacré aux Apaches, auquel vous avez contribué, il est expliqué que les Mexicains sont les ennemis héréditaires des Apaches. Ils se disputent des territoires en Arizona et au Nouveau-Mexique, où ils vivent donc.
Oui, c'est vrai, ce sont les ennemis héréditaires. Bon, il y a eu les Espagnols avant, oui. Les Mexicains leur ont succédé. Et il est vrai que jusqu'en 1850, il n'y a pas eu grand conflit et que les Anglos, ce qu'on appelle les Anglos, ce que les Apaches vont appeler les yeux clairs pour les distinguer des autres colonisateurs qui sont les Mexicains. Donc, il laisse passer les convois, il protège parfois même les colons, et tout va se gâter quand ils vont se rendre compte qu'il y a un véritable déferlement dans les plaines. Bon, on a trouvé de l'or en Californie, donc effectivement, on peut imaginer tous les prospecteurs, les chercheurs d'or, les bandits de grand chemin, il n'y a pas seulement les convois de colons. Et donc, finalement, on commence à borner leur espace vital, et tout ça devient absolument insupportable. On découvre encore aussi de l'or en Arizona, donc la vie devient parfaitement impossible. Et il y a l'Union sacrée, comme vous le soulignez, sous l'autorité de Cochite, qui est un chef très respecté, qui pourtant a essayé pendant longtemps de vivre pacifiquement avec les colons.
On aurait pu croire que les relations entre les colons et les Apaches étaient compliquées dès le départ. Mais Farid Hammer, qui signe un article sur Géronimo dans ce même magazine, explique que malgré quelques heurts, ils ont d'abord une attitude conciliante envers les colons américains, comme vous venez de le rappeler, parce qu'auprès desquels ils s'approvisionnent en armes, en munitions et en alcool. Et donc c'est à partir seulement de 1861 que là, il y a une guerre, il y a un enjeu, il faut dire.
Comme souvent, c'est souvent un incident, une étincelle qui va déclencher un grand conflit. Et là, c'est Cochise qui va être accusé à tort d'avoir enlevé le fils d'un fermier dont la ferme a été attaquée par des Apaches. Ce n'est pas lui qui, en fait, a été coupable de cela. Mais donc, il est piégé par un jeune lieutenant américain qui veut sans doute acquérir des galons. Donc, on l'accuse à tort et il s'échappe. À partir de ce moment-là, c'est la guerre. C'est la guerre. Cochise n'est plus aussi conciliant qu'il l'était auparavant. Et donc, les différentes bandes s'allient pour combattre les Anglo-Américains, les fameux yeux clairs.
Olivier.
Après 25 ans de conflit armé contre les colons, Geronimo finit par se rendre en 1886. Mais en réalité, il s'agit de sa quatrième reddition après trois fuites. Qu'est-ce qui fait qu'il abandonne pour de bon cette fois-ci? Est-ce qu'il est épuisé ou est-ce qu'il comprend que finalement la lutte est terminée?
Bah, c'est-à-dire que vous l'avez dit, il y a 5000 soldats américains qui le pourchassent, plus quelques Mexicains aussi, enfin quelques milliers de Mexicains, et ils sont à peine une centaine. Donc là, il a toujours été extrêmement réaliste, et quand il s'est rendu, il a dit « je galopais avec le vent, maintenant je me rends, c'est la fin ».
Geronimo est devenu une légende, son nom surtout. Vous expliquez comment les Apaches ont vu leur nom être détourné pour désigner ce qui va vite et frappe fort. Geronimo est aujourd'hui un synonyme de victoire pour les Américains. Ça montre l'impact du personnage dans l'histoire du pays.
C'était, en fait, les soldats américains avaient de l'estime pour lui, dans le sens où ils n'avaient jamais vu un phénomène pareil. Il était insaisissable, il était indomptable, il était sans peur. Et donc, en fait, il y a, je pense, de la part des armées, toujours une sorte de regard sur l'autre, même qui peut être un ennemi. Et on reconnaît ses qualités de combattant extraordinaires. Mmh. C'est pour ça, après, ils ont récupéré son nom, effectivement, en 1944, lorsque les parachutistes sautent sur Sainte-Mère-l'Église avec cette expression « Geronimo ». Voilà.
Vous pouvez nous le refaire, si vous voulez, Stéphane.
Non, mais Joël n'a pas osé le faire. Pour terminer, on a rappelé le sort particulièrement violent et injuste, évidemment, de Geronimo après sa reddition, mais aussi celle de toutes les nations indiennes. Comment se fait aujourd'hui, selon vous, le travail de réhabilitation des tribus amérindiennes? Comment on revisite l'histoire de la colonisation de l'Ouest américain aux États-Unis d'aujourd'hui?
Il y a un travail énorme qui est fait au niveau déjà des historiens, aussi par les enseignants, parce qu'on a un petit peu modifié les livres d'histoire quand même. Avant, l'histoire des Indiens se terminait en 1890. On n'en parlait plus, il n'y en avait plus. Aujourd'hui, on a découvert qu'il y en avait encore pas mal. Et il y a un mouvement de renouveau, de renaissance des cultures indiennes très, très important à partir des années 1930. Et ensuite, un mouvement de défense des droits civiques dans les années 70-80. Donc, c'est très différent aujourd'hui. Et donc, on peut dire qu'il y a énormément d'Indiens qui prennent la parole et qui prennent le pouvoir.
Voilà une bonne chose. Merci beaucoup, Joël Roskowski, d'être revenu avec nous sur ce chef indien mythique qui a inscrit la nation Apache dans la légende. Je rappelle aussi le hors-série d'Historia consacré aux Apaches auxquels vous avez collaboré, les Apaches, Geronimo le Rebelle. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castillo-Lopez et Olivier Poul, sont réunis de sauvages Apaches. Après les Apaches de Paris et Geronimo, vous nous racontez, Jean-Luc, un rappeur sauvage, mais uniquement sur scène, Attic.
Eh oui, mon Apache à moi s'appelle donc Attic. Mais contrairement à Geronimo, il ne vit pas au Nouveau-Mexique et n'a jamais chassé ni wapiti ni mouflon. Sa seule expérience en tipi a probablement eu lieu durant les vacances d'été à la Grande Motte. C'était même pas un tipi, mais une tente quechua de place. D'ailleurs, dans son cas, Apache s'écrit A-P-A-S-H. Et c'est pas le nom de sa tribu, mais d'un personnage de fiction qu'il a interprété dans une série. Et puis, il s'appelle pas vraiment Attic, mais Clément Penoit.
Ah oui.
Et il est rappeur et acteur. Voilà. Encore un mensonge éhonté du show business. Mais pas de déception. Son parcours est aussi passionnant qu'une aventure de Yakari. Le petit Attic voit le jour en 1992 dans les grandes plaines des Yvelines, à Chevreuse. Sa tribu migre alors vers Guyancourt, où il grandit dans le quartier des Garennes. Son père, le grand chef d'origine bretonne, surnommé Menhir Agile, est ingénieur informatique. Et sa mère, d'origine guyanaise, Lasco, responsable des achats, est prof au lycée. Ado, il préfère ranger ses stylos dans son carquois plutôt que des flèches et passe de longs moments à écrire des poèmes d'amour qu'il publie sur son blog. Le blog, c'est un peu ses signaux de fumée à lui. Ses parents sont passionnés de musique et le week-end, c'est sessions de jazz improvisé en famille et danse de la pluie. C'est son oncle maternel, appelé aussi Lynx Beatboxer, qui lui fait découvrir le rap et le hip-hop avec des artistes majeurs tels que Busta Rhymes et Diams. Dès 16 ans, il teste ses cordes vocales et ses capacités à faire rimer des punchlines efficaces avec un micro d'ordinateur un peu pourri et une version Wish de GarageBand.
faut bien commencer quelque part. Attic est un élève turbulent et laisse tomber le lycée dès la première. Il enfourche son petit tonnerre et part étudier l'anglais en Californie pendant quelques mois et obtient son bac en candidat libre. En conflit avec sa tribu, il s'installe chez Cataracte Malicieuse, sa grand-mère maternelle, qui compte beaucoup pour lui. J'essaie de tirer un peu la métaphore.
Cataracte Malicieuse.
Après cette petite période de turbulence, Attic se remet en selle et autoproduit sa première mixtape, America 2, Connaissance et Style, qui passe quelque peu inaperçu si on ne vit pas dans son quartier ou si on est plus France Bleu que Skyrock. En parallèle, il cumule les petits boulots, mais il s'accroche. Et il enchaîne avec une nouvelle proposition qui lui fait gagner ses premières plumes. La mixtape Chaise Pliante. C'est le projet artistique qui le fait connaître du grand public et des cow-boys.
Le grand froid approche, tu peux me trouver à 2h du matin dans une gove. À fumer tabac de dur dans une voiture allemande, chaise passager marocaine et la gove.
La Chaise Pliante, c'est celle que vous connaissez bien, Stéphane. Celle qui vous accompagne lorsque vous suivez le Tour de France. À ne pas confondre avec la version chaise percée. Réservé à votre plage grecque naturiste préférée.
On fait pas caca sur une plage.
Bah si, si non. Plutôt faire ça sur, derrière un buisson.
Mais non. Il a une conception du naturisme assez intéressante.
Déjà, un, je ne suis pas naturiste.
Oh, écoutez, des photos.
Je ne défèque pas sur les plages grecques. J'aimerais que ma réputation ne soit pas entachée par vos bêtises.
Il y a des documents qui circulent, vous savez.
Il n'y a pas de photos.
Chaise pliante chez Attic. C'est 17 titres, des freestyles qui parlent de la délinquance, du trafic et des thématiques fortes liées à la vie des quartiers. Comme l'exclusion, l'argent, la volonté de s'en sortir, empreint d'une vraie sensibilité.
J'ai déjà pris le volant, fermé les yeux en pensant à ma tante. Abîmé, comme le billet qui traîne au fond de ma poche. Abîmé.
Sur cette mixtape, on trouve aussi le titre Angela, avec la reprise de la mélodie iconique du Cyan Supercrew, qui propulse un peu plus Attic vers la notoriété.
Angela, appelle-moi ce soir, et je démarre de la zone.
Si pour la plupart d'entre nous, l'année 2020 était synonyme de banana bread et de respirateur artificiel, pratique, c'est celle de la consécration.
Nuages de fumée dans la tête.
Non, pas parce qu'il a su remplir son attestation de sortie sans se tromper, mais parce qu'il tient le premier rôle de Validé, la série événement de Canal+, qui nous plonge dans l'univers du rap et qui vient sauver notre confinement. C'est le réalisateur et visage pâle, Frank Gastambide, qui lui propose d'incarner Apache, le héros, un jeune rappeur promis à un avenir grandiose et à la plastique avantageuse. Car oui, Attic a autant de flow qu'il a d'abdominaux. Et il est beau gosse. Une fine moustache, des cheveux longs et bouclés, il s'habille bien, il m'énerve. Mais c'est autant d'arguments marketing non négligeables qui viennent s'ajouter à son talent naturel. Attic interprète 3 titres de la bande originale de la série et en à peine 5 jours, l'audience affiche plus de 6 millions de visionnages sur MyCanal et Canal+ série. En parallèle, il sort Chaise Pliante, volume 2. Nouveau succès, c'est la danse du scalp, tout le monde est content. Et le saviez-vous, le titre Chaise Pliante aurait inspiré Franck Michael, qui souhaiterait appeler son prochain album Chaise Roulante.
Moi, je ne sais pas qui c'est.
Vous ne savez pas qui c'est, Franck Michael ?
Franck Michael ?
Bah, voyons, toutes les femmes sont belles.
Il a fait plus pour faire mouiller les culottes des...
Ah bah ça tombe bien parce que mais justement, juste après, il va pas être de lyophilisé.
Mais c'est une vieille personne, c'est pour ça qu'elle est en chaise roulante, c'est ça ? Mais il est pas mort.
Non,
c'est
il est pas mort.
Un chanteur.
C'est lui qui fait les tournées de maison de retraite maison tous les dimanches après-midi.
Okay. Voilà. J'ai l'impression qu'on perd du rythme dans le... Contrairement à son personnage de Apache, Attic ne vend pas de drogue, ne fait pas de prison et ne meurt pas. Désolé si je vous ai spoilé la saison 2.
Ah oui, c'est dommage.
Ouais. Bon, peut-être un petit calumet de la paix de temps en temps, histoire de retrouver l'inspiration, mais c'est tout. Il est bien décidé à continuer de gravir les marches de la fame. Le boost de carrière insufflé par la série lui permet de gonfler son nombre de streams et de followers. Il est très actif sur les réseaux et de multiplier le projet. Des tournages, un nouvel album prévu pour mai 2023, son propre label, un featuring avec Stéphane Bern, rebaptisé pour l'occasion Petit Bison de Tiron. Mmh. Attic n'arrête pas et sa mère, avec qui il est réconcilié, gère toute la paperasse et l'administratif. Merci madame. L'horizon semble plus que dégagé pour notre jeune Apache des Yvelines qui galope à toute vitesse sur nos plaines francophones. Et il n'est pas encore né, celui qui réussira à le freiner d'un coup de lasso.
Mais merci beaucoup Jean-Luc. Et je vais faire écouter ma...
Toutes les femmes sont belles.
Valse.
Carton. énorme ça quand même.
Ah ouais. Ça, je ne comprends pas que vous ne connaissiez pas ça.
Mais maintenant je connais et je vais connaître encore plus.
On veut les origines.
Ouais, les origines de Frank McKay.
Merci Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos sauvages apaches pour retrouver deux gentils chroniqueurs qui ne feraient pas de mal à une mouche. Un pigeon, oui, mais pas une mouche. David Cassé-Lopez, vous nous racontez les origines de la barre des pompiers.
Oui, qu'on appelle aussi la perche de feu.
Ne vous énervez pas.
Dit comme ça.
Ne vous énervez pas, ça
change de ton.
Oui.
Hein, la perche de feu.
Il a une forme d'excitation.
Ah, oui.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque aujourd'hui. On parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, et on remonte 3000 ans en arrière pour découvrir, Olivier, comment les Incas ont inventé la nourriture lyophilisée.
Quel point commun y a-t-il entre un astronaute, un marin du Vendée Globe et un alpiniste?
Ça ressemble comme une blague. Hein. Ça commence comme une blague.
Ça, je dirais, le fait qu'il consomme de la nourriture lyophilisée.
Eh oui, voilà. David, bravo! Vous êtes vraiment perspicace. Leur nourriture. Car tous trois font face à la même contrainte. Ils ne peuvent emporter qu'un poids très faible de victuailles, doivent les conserver souvent longtemps et ont besoin d'un important apport calorique. Leur salut tient donc dans un petit sachet de quelques dizaines de grammes dont le contenu, une fois réhydraté, permet d'obtenir un repas complet et nourrissant. Une technique de conservation des aliments donc, qui remonte, tenez-vous bien, à 1200 ans avant Jésus-Christ. Et ce sont des peuples incas qui vivaient dans les montagnes de l'Altiplano et du Machu Picchu qui l'ont mise au point.
Alors, comment procédait-il ?
Eh bien, le processus se déroulait en plusieurs temps. Tout d'abord, ils exposaient les produits au froid durant la nuit, de manière à les congeler. Ensuite, ils les mettaient au soleil la journée, puisque dans ces régions, les températures passent de moins 20 degrés la nuit à plus 20 degrés la journée. Une alternance qui combinait aux conditions sèches de l'altitude et à la faible pression, permettait de sublimer l'eau contenue dans les produits. Sublimer, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui se souvient de ses cours de physique ?
Ça veut dire transformer en une sorte de vapeur ?
Non, c'est le passage de l'état solide de l'eau à l'état gazeux, sans repasser par l'état liquide.
Ah, et comment on fait ça ?
Eh bien oui, parce que justement, cet important écart de température permettait de faire ça. Ils obtenaient ainsi des denrées qui étaient déshydratées et qui pouvaient se conserver très longtemps. Et l'un des produits qui était traité ainsi était un cousin de la pomme de terre qu'ils consommaient déjà, eux et les Incas. Donc, la purée mousseline a été créée il y a plus de 3000 ans. Alors, malheureusement, cette technique que l'on appelle aussi la cryodessiccation n'a pas été utilisée ailleurs que chez les Incas durant des siècles. Elle a un peu été perdue. Il y a quelques Vikings qui s'y sont essayés, mais sans succès. Et il faudra attendre le début du XXe siècle pour que cette technique soit enfin utilisable à grande échelle. Et ce sont Cocorico, deux Français, qui l'ont mise au point. En 1906, Arsène d'Arsonval et Frédéric Borras inventent la lyophilisation moderne.
Mais comment ils ont procédé alors ?
Eh bien, un peu comme les Incas en fait, hein, puisqu'il faut d'abord congeler l'aliment, puis en extraire l'eau sans qu'elle ne passe par la phase liquide, et ensuite les assécher donc. Ils travaillent sous vide et sont ainsi capables de retirer 95% de l'eau contenue dans un produit. Mais leur travail n'avait pas pour but au départ de lyophiliser des aliments, mais des vaccins et des sérums. Et durant la Seconde Guerre mondiale, on lyophilise d'ailleurs de la pénicilline et du plasma sanguin. Côté nourriture, c'est le jus d'orange qui, dans les années 1950, est le premier vrai produit à grande consommation qui est lyophilisé aux États-Unis. Après récolte des oranges en Floride, on retire par lyophilisation toute l'eau qui est contenue dans le jus. On fait donc voyager une poudre qui ne pèse que 5% du poids d'origine et qui, elle, peut se conserver longuement. C'est un gain colossal en matière de coût de transport. À l'arrivée dans les usines du monde entier, on réhydrate le jus, on rajoute de la vitamine C et hop, c'est parti.
Mais aujourd'hui, quelles sont les applications ?
Eh bien, je vous l'ai dit au début de cette chronique, des secteurs comme par exemple les voyages ou l'aéronautique, des secteurs dans lesquels on peut emporter de la nourriture en très petite quantité, mais aussi des produits du quotidien, comme le café soluble, les céréales de votre petit déjeuner, elles sont lyophilisées, certaines soupes, celles que vous pouvez parfois me voir manger sur les coups de 11h quand j'ai un petit creux. Alors, tout n'est pas lyophilisé dedans, mais il y a des ingrédients qui le sont, des herbes aussi, et à l'exception des vitamines B, C et E, le processus de lyophilisation permet de conserver 97% des valeurs nutritionnelles d'un produit.
Et quelle différence vous faites entre la lyophilisation et la déshydratation?
Alors, la simple déshydratation consiste simplement à retirer l'eau d'un aliment pour le conserver. Elle est pratiquée à chaud, par évaporation. Elle enlève davantage de nutriments aux aliments et ces derniers se conservent un peu moins longtemps. Ils doivent d'ailleurs être réhydratés avec de l'eau chaude, ce qui n'est pas le cas des aliments lyophilisés. On peut donc dire que la lyophilisation, qui implique d'abord de congeler et puis d'extraire l'eau sous vide, est une super déshydratation.
Très bien, bah merci beaucoup Olivier, mes aïeux, quelle époque. Allez, dans un instant, c'est le début de la fin, le début tout court, puisqu'avant de partir, on remonte aux origines avec David Castello-Lopez et sa barre de feu, sa barre des pompiers.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et maintenant avec vous, David Castello-Lopez. Aujourd'hui, pas le temps de prendre l'ascenseur ou même l'escalier, vous nous racontez la barre des pompiers.
En 1871, Chicago, c'était une ville dont beaucoup de quartiers, les quartiers pauvres, étaient construits en bois. Ce qui est super sympa, charmant, le bois, tout ça. Sauf, vous serez d'accord avec moi, quand il y a le feu. Et justement, en 1871, le 8 octobre, à Chicago, on ne sait pas exactement comment, il y a un incendie qui s'est déclaré. Et il a ravagé la race de Chicago. Un tiers de la ville a brûlé. Il y a eu au moins 300 morts, 100 000 personnes sans abri. Et ce feu, il a traumatisé la ville de Chicago, qui à partir de là s'est mis, si vous voulez, un petit peu au taquet au niveau des pompiers. C'était spécial, les pompiers à l'époque à Chicago, parce que c'était des entreprises privées qui étaient en concurrence les unes avec les autres, et qui avaient une incitation supplémentaire à se tirer dans les pattes. Et cette incitation, c'était que leur intervention n'était payée que si elles étaient les premières à éteindre le feu. Ah oui. Sinon, que dalle. Parmi ces compagnies, il y en avait une qui s'appelait la compagnie 21, qui était composée uniquement d'Afro-Américains, ce qui était une première aux États-Unis. Donc, si je résume le contexte, aller vite chez les pompiers, c'est un truc qui, de base, est important, hein, parce que sinon, ça brûle. Aller vite chez les pompiers de Chicago, à ce moment-là, c'était encore plus important, parce que sinon, vous faisiez faillite. Et je rajoute que les États-Unis, en 1871, c'était quand même un endroit très, 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 très raciste. Et donc, les pompiers de la compagnie 21, ils se sentaient une obligation supplémentaire d'être performants et donc rapides pour éteindre le feu. Vous voyez venir d'ici la nécessité de la perche de feu. Mais pour bien la comprendre, il faut encore un élément de contexte. À cette époque, les véhicules de pompiers, ils étaient tirés par des chevaux qui étaient installés au rez-de-chaussée des casernes. Les hommes, ils mangeaient et dormaient au premier étage et le foin pour nourrir les animaux, il était entreposé au deuxième étage, probablement sur une sorte de mezzanine. Pour éviter que les chevaux ne montent au premier attirés par la nourriture, on avait construit un escalier des escaliers très étroits en colimaçon. Ce qui était super pour la fonction qu'on espérait d'eux, c'est-à-dire empêcher les chevaux de monter, mais vraiment nul quand il s'agissait de descendre vite pour aller éteindre le feu. Dernier truc à savoir, pour acheminer le foin au deuxième étage, on utilisait de grandes perches en bois. Bon, et là, je pense que vous en savez suffisamment hein, pour comprendre ce qui s'est passé.
Ils ont pris les perches en bois pour descendre.
Voilà. Un jour, comme quoi, quand on met bien en place le contexte, ouais, on peut passer la
finit tout seul. Même des idiots comme nous.
Olivier, il pensait que le cheval avait pris la perche pour monter au deuxième étage, manger du foin. Lui aurait fait.
S'il n'y a rien d'autre. Un jour, il y a un pompier de la compagnie 21 qui s'appelait George Reed, qui était dans le grenier à foin quand tout à coup, l'alarme a retenti. Alors, il a sauté sur la perche en bois qui avait été entreposée là pour descendre jusqu'en bas super vite. C'était ce jour-là le type qui était le plus loin de l'entrée du bâtiment et pourtant c'est lui qui arrivait en premier et ça, ça a vraiment montré à tous les autres que c'était sans doute une méthode de première catégorie pour aller plus vite. En 1878, la caserne de la compagnie 21, ils ont installé la perche de façon permanente dans leur caserne et c'est devenu grâce à ça l'une des compagnies de pompiers les plus rapides de la ville. Ils sortaient de leur caserne en 15 secondes extrêmement rapide, au point que toutes les casernes de la ville ont commencé à s'équiper en barres de feu, en perches de feu. Alors au début, c'était une perche qui restait en bois, enduite de paraffine pour pouvoir glisser dessus plus vite. Mais c'était quand même pas top parce qu'on se mettait des écharpes dans les doigts. Vous imaginez que ça devait pas être très bien. Et à ce moment-là, donc, il y a une autre compagnie de pompiers près de Boston qui a breveté une version métallique de la barre. Et c'est cette version métallique de la barre qui s'est imposée dans le monde entier. Alors aujourd'hui, la barre des pompiers est en train de tomber en désuétude.
Ah bon ?
Ben oui. Pourquoi ? Ah ben parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a eu depuis les débuts de la perche quand même pas mal d'accidents de pompiers qui se ratent et qui se vautrent d'une hauteur de 10 mètres sur le sol. Et un pompier décédé, c'est encore moins bien qu'un pompier qui va lentement dans la perspective, vous voyez, d'éteindre le feu. Aujourd'hui, si vous voulez, on considère que le gain de temps qu'apporte la perche ne vaut pas le risque qu'on prend en l'utilisant. Et en plus, les nouvelles casernes qu'on construit, elles sont construites de plein pied, ce qui règle définitivement le problème de la descente.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui sont entrées dans les ordres. Alice de Battenberg, la mère du prince Philippe, duc d'Édimbourg, princesse de Grèce et femme engagée, qui est entrée dans les ordres à sa manière. Puis, elle y est entrée vraiment, Jacqueline Pascal, une sœur, au double sens du terme, au nom connu, mais au prénom qui l'est moins. On y remédiera demain. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une comédienne entrée dans les ordres elle aussi, mais uniquement au cinéma.
Oui, Dieu merci. Je voudrais ce portrait de celle qui fut une nonne pas tout à fait conventionnelle devant la caméra de Paul Verhoeven, Virginie Efira.
Eh bien, on découvrira tout ça demain avec joie. Alors, bonne soirée d'ici là. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.